Mémoire vive.
Présentée par Christelle Le Polothèque.
Et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Henri Rousseau pour son livre « Face au passé, essai sur la mémoire contemporaine » paru chez Belin. Henri Rousseau, vous êtes directeur de recherche au CNRS, fondateur de l'Institut d'Histoire du Temps Présent.
Enfin j'étais tout jeune, c'était François Bédarida.
Précisez-le bien, et l'auteur de nombreux ouvrages qui ont fait référence, parmi lesquels évidemment le syndrome de Vichy. Vous êtes également le commissaire de l'exposition qui a lieu actuellement au Mémorial de la Shoah, à laquelle nous avons déjà consacré une émission, et nous invitons bien sûr nos auditeurs à s'y rendre. Vous continuez dans ce livre à vous intéresser à la mémoire et à ses usages politiques en France depuis le dernier tiers du XXe siècle, à ses flux et à ses reflux, en revenant sur les cycles de mémoire marqués par la liquidation de crise, l'amnésie, l'anamnèse puis l'hypermnésie. D'emblée, vous faites un constat qui paraît cinglant, un constat que vous résumez ainsi, l'idée que la perpétuation de la mémoire des grands traumatismes collectifs agirait comme une conjuration qui nous épargnerait la répétition des crimes passés, n'est qu'une illusion.
Oui, ben écoutez, on peut, depuis le temps que je travaille sur ces questions-là, c'est-à-dire à peu près une trentaine d'années, je fais partie de ma génération, de nos générations, j'ai cru, oui, que cet entretien de la mémoire aurait d'abord un effet de conjuration, mais ça c'est un élément psychologique. Mais surtout, j'ai cru, je crois d'ailleurs encore en partie, qu'il y a une transmission possible, qu'il y a malgré tout des leçons du passé. Enfin, force est quand même de constater que, pour prendre juste un exemple réduit, la Shoah est devenue un événement majeur de référence dans la plupart des pays européens, et notamment dans l'Union européenne, même au niveau mondial. Elle est commémorée, elle est célébrée, elle est étudiée, elle est encouragée dans l'enseignement et la recherche, etc. Et c'est un processus qui a émergé depuis une vingtaine d'années, et en parallèle, on a vu monter, clairement, l'antisémitisme, pour d'autres, peut-être pour d'autres raisons que celles qui ont mené à l'émergence du nazisme. C'est ce parallèle-là qui m'intrigue, qui m'inquiète.
En tout cas, ça n'a donc pas endigué la montée de l'antisémitisme. Et puis vous dites qu'au moment même où justement cette mémoire de la Shoah était de plus en plus présente, ça correspond à peu près au moment du génocide au Rwanda.
Oui, je prends cet exemple, parce qu'il y a des génocides, malheureusement, il y en a eu d'autres, ou des grands crimes de masse, il y en a eu d'autres depuis 1945. Non, je prends cet exemple parce qu'il me concerne directement, d'abord parce que en 1994, à l'été 94, je suis en train de terminer avec Eric Conant Vichy, un passé qui ne passe pas, qui est un ouvrage qui fait un peu suite au syndrome de Vichy, qui a compté pour moi, puisque c'était une analyse, on va dire, un peu plus critique déjà des phénomènes de mémoire. Ces années-là, c'est 1994, c'est l'année de la grande polémique autour de la question de Vichy, notamment autour du passé de François Mitterrand, autour de la question de savoir si on va commémorer le Veldiv et comment, puisqu'on vient d'instaurer une nouvelle commémoration. Et puis, c'est le moment du génocide des Tutsis au Rwanda, et il n'y a aucune espèce de comparaison, de relation entre les deux événements. Et il se trouve que pour d'autres raisons, récemment, je me suis intéressé au Rwanda, je me suis rendu à deux reprises dans ce pays, j'y ai fait des rencontres, bref, j'ai un peu analysé aussi les questions de mémoire. Je suis très frappé par cette concomitance, c'est-à-dire au moment où la France est plongée de manière, là, je vais employer un terme qui peut choquer, narcissique sur son propre passé, non seulement elle ne voit pas ce qui se passe ailleurs, mais en plus elle y joue un rôle pour le moins, comment dire, qu'il s'agira un jour d'analyser de près, de remettre en question. Voilà. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Donc la question que je pose, c'est au fond à quoi sert, une fois qu'on a admis que la mémoire, ça sert d'abord, enfin les politiques de mémoire, ça sert d'abord avant tout à rendre hommage aux victimes, à réparer ce qui peut être réparable. Mais une fois qu'on a dit ça, pour le présent et l'avenir, ça sert à quoi? Voilà, c'est une question à la fois d'historien et de citoyen.
Alors d'un point de vue politique, vous revenez aussi donc tout au long de la Ve République, où chaque président va aborder différemment cette question de la mémoire, pas seulement celle de la Shoah, mais aussi des autres groupes de victimes. La mémoire devient le domaine réservé du président.
Oui, alors c'est un chapitre qui porte sur le président parce que c'est un indicateur tout simplement. C'est une façon de faire un survol assez rapide. Et je fais l'évolution permet de comparer le chemin parcouru, on va dire, du général de Gaulle à François Hollande. Donc j'ai une formule assez rapide. Je pense que général de Gaulle s'intéressait quand même assez peu à la mémoire, même s'il a été un homme de commémoration, mais il s'intéresse assez peu à la mémoire au sens contemporain du terme, au sens où nous on s'y intéresse.
Il est dans une mémoire militaire, on va dire en tout cas.
Oui, puis il est dans une tradition plus que dans une mémoire. Je fais cette distinction dans le livre, c'est-à-dire, il dit en gros ce qui s'est passé pendant la France, pendant la guerre, en France, la résistance appartient à la tradition immémoriale de la France. C'est-à-dire, il ne s'agit pas du tout de commémorer le passé, il s'agit de commémorer, de se souvenir d'une valeur qui est toujours celle de la France, qui va le rester pour toujours, puisque de Gaulle est dans la France éternelle. Après, dans les présidents qui suivent, on est tout à fait dans d'autres situations. Très rapidement, Pompidou veut tourner la page. Bon, pour des raisons un peu conjoncturelles, et au moment où il veut tourner la page, c'est bam, le retour de Vichy. Le grand changement, c'est Jacques Chirac. Jacques Chirac est le président qui a, on va dire, d'abord accédé à toute une série de demandes, à commencer par celle de Serge Klarsfeld et d'autres associations sur la reconnaissance des crimes de Vichy. Et Jacques Chirac, c'est celui qui va faire véritablement la mémoire une politique d'État en France et qui va considérer, enraciner cette pratique comme étant celle de l'exécutif, de manière privilégiée. Et on le verra par la suite avec Sarkozy, avec François Hollande. Et ça, c'est une nouveauté, oui, en France.
Alors, vous parlez également de la guerre d'Algérie, dont la mémoire a été beaucoup plus difficile à élaborer, notamment en raison de la disparité des forces en présence. J'ai envie de dire, c'est ça qui fait aussi ce nœud autour de cette question.
Oui, alors c'est un chapitre qui compare l'évolution de la mémoire de Vichy et de celle de la guerre d'Algérie. Alors pourquoi j'ai fait ça ? Parce que c'est un thème récurrent dans le débat public. On associe les deux événements fréquemment. Bon, à mon sens, il y a quand même une différence fondamentale. C'est-à-dire que il y a beaucoup de différences historiques, mais simplement pour dire les choses, une différence fondamentale. Ce qui a fait conflit pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui a fait le conflit interne aujourd'hui est en partie, même très largement résorbé. Lorsqu'il y a des polémiques sur Vichy, et sauf quelques exceptions dont je n'ai pas envie de parler aujourd'hui, il n'y a pas un groupe qui se dresse pour prendre la défense du maréchal Pétain.
Non, il reste en marge, quoi.
Voilà, ça reste marginal. Le vrai débat qu'il y a eu sur Vichy depuis les années 80-90 jusqu'à aujourd'hui, c'est quelle est la meilleure manière de le commémorer, de quoi faut-il parler, etc. C'est pas un combat résiduel de ce qui s'est passé pendant la guerre. Sur la guerre d'Algérie, c'est très différent, parce que les protagonistes, les acteurs de ce conflit, qui était à la fois un conflit de décolonisation, un conflit interne, un conflit militaire, les protagonistes sont toujours là. Et les conflits, ou en tous les cas les différents qui ont vu le jour à l'époque, sont toujours là. Le point de vue des pieds noirs sur la guerre d'Algérie ne pourra pas être celui du FLN ou des descendants de militants du FLN, pas plus qu'il ne pourra être le point de vue de ceux qui ont défendu l'idée d'une Algérie française. Vous voyez. Et si cette question-là avait été résorbée, peut-être qu'on aurait des choses similaires avec ce qui s'est passé sur Vichy. Mais elle n'est pas résorbée. Je prends juste une différence majeure. La France et l'Allemagne se sont réconciliées, et ô combien, puisque c'est le cœur de l'Union européenne. La France et l'Algérie ne sont pas arrivées à ce stade de relations, y compris en termes de mémoire. Donc voilà. Pour moi, la question de la mémoire d'Algérie est beaucoup plus vive, bien sûr, que celle de la mémoire de Vichy.
Alors, on va peut-être s'intéresser plus particulièrement à la dernière partie de votre livre, où vous vous intéressez à une mémoire transnationale. En l'occurrence, on va parler plus précisément de l'Europe. Mais c'est vrai que 30 ans maintenant, bientôt après la chute du mur, il n'y a pas encore de mémoire commune des deux côtés, mais c'est vrai qu'on commence à voir se composer une mosaïque de mémoire à travers les regards, à travers les expériences, à travers le voile idéologique aussi qui a été jeté de chaque côté, donc à l'Est comme à l'Ouest. Et on voit, on commence à voir émerger une mémoire commune de la Deuxième Guerre mondiale et bien sûr de la Shoah en Europe.
Alors oui et non, c'est évidemment, c'est une très bonne question. Oui et non, parce qu'il y a eu cette tentative qui a commencé avant la chute du mur de Berlin, en Europe occidentale, et qui a fait la Shoah évidemment un événement de référence. Et puis après la chute du mur de Berlin, la question se posait, est-ce que tous les nouveaux pays de l'ancien bloc communiste allaient-ils, comment dire, s'aligner sur ces procédures, sur l'importance qu'on accorde au souvenir de la Shoah ou non? Alors là, il y avait deux problèmes. D'abord, deux problèmes qui sont des problèmes historiques. Le premier, c'est que la Shoah s'est quand même fondamentalement déroulée dans ces pays-là. L'écrasante majorité des victimes vient des anciens qui sont devenus par la suite des pays sous domination soviétique. Et donc la question ne pouvait pas être de même nature qu'en Belgique ou en France. Bon. Et puis la question du communisme, c'est-à-dire qui non seulement une question historique, mais une question qui a été posée d'une équivalence ou d'une absence d'équivalence. C'est la question de la mémoire du communisme reste, à mon avis, encore un des grands enjeux, en tous les cas une question mémorielle qui n'a pas été traitée ni abordée de la même manière qu'on a pu le faire pour la question du nazisme. Et donc on s'aperçoit que oui, dans un premier temps, il y a eu une forme d'homogénéisation. Il y a même un historien anglais, Tony Judd, qui a dit la mémoire de la Shoah, c'est le péage pour entrer dans l'Europe, c'est-à-dire c'est vraiment montrer à quel point on est européen. De mon point de vue, c'est un marqueur démocratique, la question de la mémoire, et singulièrement la mémoire de la Shoah. Et puis on s'aperçoit avec la situation actuelle, avec les tensions économiques, la tension avec les réfugiés, les tensions même entre frontières, entre frontalières, entre pays, que les vieux réflexes nationalistes sont en train de réapparaître. Et donc cette mémoire de la Shoah risque de ne plus avoir la même place, voire pas de place du tout. Dans le futur. Je prends juste deux exemples. Ce qui s'est passé récemment en Pologne, où l'un des plus grands historiens de la Shoah, Jan Gross, s'est vu menacé de se voir retirer une médaille pour avoir, en gros, sali le peuple polonais, je prends des guillemets, ou ce qui s'est passé en Croatie, où un historien révisionniste a pu devenir ministre de la Culture. Bon, des choses qui étaient proprement impensables il y a 20 ans. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est à la fois, il y a eu une européanisation de cette mémoire. La mémoire est devenue une valeur européenne, une valeur démocratique. C'est même, de mon point de vue, une valeur qu'on retrouve à l'échelle mondiale, puisque j'essaie de monter en généralité dans mon livre. Mais en même temps, il y a des remises en question qui sont quand même extrêmement inquiétantes, ici ou là en Europe, et qui laissent de nouveau l'avenir ouvert sur cette question.
Mais justement, pour vous, c'est un danger de fonder, entre guillemets, cette Europe sur ce que vous appelez, je crois, une mémoire négative?
Non, alors, c'est pas un danger. C'est pas un danger. Le danger serait, à la limite, presque l'inverse, bien sûr, ce qu'on voit encore une fois, les formes de révisionnisme. Non, je pointe simplement un risque, en tous les cas, une question. Alors, mémoire négative, je voudrais expliquer ce que c'est, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Enfin, l'expression mémoire négative vient d'un grand historien allemand, Koselleck. Ça signifie une chose assez simple, c'est qu'un pays décide à un moment de commémorer, de se souvenir, de créer des monuments, des journées, etc., en souvenir d'une responsabilité que lui-même a devant l'histoire. C'est-à-dire, on ne va pas commémorer une victoire, on ne va pas commémorer même les martyrs qui sont morts pour la défense de la patrie, on va commémorer les crimes que cette patrie a elle-même commis. Donc, c'était vrai pour l'Allemagne, c'est là l'Allemagne, on a des exemples nombreux.
Le 8 mai, par exemple, le fait de commémorer le 8 mai en Allemagne depuis... Non, c'est pas un exemple.
Non, c'est la alors, oui, par exemple, oui, tout à fait. Le 8 mai.
Non, c'est odieux de dire ça, puisque ça voudrait. En l'occurrence.
Non, mais vous avez raison. Jusqu'en 1985, le 8 mai n'était pas commémoré en Allemagne. En 1985, c'est le président von Weizsäcker qui décide de dire le 8 mai est le jour de la libération de l'Allemagne. Donc, c'est évidemment, vous imaginez ce que ça peut représenter pour des gens qui ont vécu la guerre. Je ne parle pas simplement, c'est pas des nazis, mais les gens qui ont fait ou vécu la guerre. Simplement, pour en arriver là en 1985, il a fallu que pendant à peu près 15-20 ans, le geste le plus spectaculaire, c'est celui de Willy Brandt s'agenouillant devant le monument commémorant la révolte du ghetto de Varsovie. C'est ça une mémoire négative. Ça veut dire le chancelier allemand s'agenouille pour dire « oui, mon pays était responsable et il faut s'en souvenir ». Et donc, après, il y a eu toute une série de phénomènes en Allemagne, jusqu'à la construction récente du grand mémorial de la Shoah à Berlin, qui est quand même relativement récent. Et donc, partout en Europe, on a vu ce phénomène. En France, la commémoration du Veldiv est par définition une commémoration négative. Alors négative, ça veut dire que c'est pas bien. Négative, ça veut dire qu'on se souvient ce jour-là de la faute commise par l'État français, voire par le pays tout entier. avec une petite nuance, depuis 2005, la nouvelle loi sur cette commémoration inclut les justes. Ça veut dire qu'on a corrigé l'idée qu'il ne fallait se préoccuper que de la responsabilité des crimes commis par Vichy, donc la France. Il faut se souvenir aussi de ceux qui ont sauvé les Juifs et globalement de ceux qui se sont comportés d'une manière héroïque pendant la guerre. Donc, ne serait-ce que cette décision qui est de Chirac montre à quel point la mémoire négative seule ne peut pas fonctionner. Puis la dernière question, c'est, là je la pose parce que j'ai 61 ans, j'ai des enfants, j'ai une enfant, une fille. Combien de temps les générations européennes vont-elles pouvoir, je parle même pas en termes de devoir, de morale, mais simplement en termes social, politique, porter cette mémoire, ce fardeau du passé, que ce soit les Allemands, que ce soit les Français ou n'importe qui. Donc, et je pense que l'Europe aurait intérêt à réinventer sa propre tradition et se célébrer aussi ce qui ont été ses mérites. On ne peut pas uniquement fonder l'avenir sur le fait que l'Europe s'est construite sur les cendres de la guerre. On en a des exemples aujourd'hui, tous les jours, que ce modèle ne fonctionne plus.
Il y a aussi cette corrélation, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait l'opposé de la mémoire, parce qu'en l'occurrence, il y a l'absence de mémoire, mais vous évoquez aussi la question du négationnisme qui est pour vous un symptôme qui nous parle des marges dans nos sociétés démocratiques, et même plus les marges, puisque vous le relatiez à l'instant, un ministre croate tient des propos clairement négationnistes.
Oui, alors... Je me suis intéressé à la question du négationnisme pratiquement au moment où il est apparu. Enfin, l'apparition en France, enfin, au moins la deuxième vague de négationnisme, celle qui va avoir un grand écho, Forisson, pour pas le nommer, c'est 78-79. Et bon, j'ai créé entre guillemets ce terme dans le syndrome de Vichy quelques années plus tard. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, je le considérais comme un phénomène marginal. Je ne pouvais pas imaginer, non pas simplement qu'ils s'étendent, ça, bon, bien sûr, ça pouvait être un risque, qu'ils deviennent dans certains, pour certains pays, une politique, un discours d'État, hein, je veux dire, au moins un, oui, et encore que dans certains autres, c'est quand même quelque chose d'assez répandu, et surtout qu'ils s'inscrivent à ce point dans une vision beaucoup plus large, qui n'est pas simplement liée à la Shoah, mais qui est ce qu'on appelle la vision complotiste de l'histoire. Le négationnisme, parce qu'il y a plusieurs négationnismes, négationnisme de la Shoah, il y a la question des Arméniens et des Turcs, mais là, c'est le criminel qui nie son crime. On est dans une situation relativement banale. Mais il y a aussi tout ce qu'on a vu aujourd'hui, après le 11 septembre ou d'autres événements. Et aujourd'hui, c'est quasi systématique. Dès qu'il se passe quelque chose, dans l'heure, vous avez un phénomène de négation. Donc, ce négationnisme-là, il est lié à la Shoah, bien sûr. Il est lié à ce qu'a été la Shoah. Il est lié à l'anamnèse, c'est-à-dire au retour de mémoire. Les négationnistes apparaissent au moment même où il y a une deuxième vague de témoignages. Mais en même temps, je pense que c'est un symptôme de notre époque qui dépasse de très loin la question de la Shoah.
En revenant peut-être sur la période actuelle, vous mettez en relation la situation que nous vivons donc depuis les attentats. Je rappelle que le président de la République a déclaré que nous étions en guerre après le 13 novembre. Et la prolifération mémorielle qui a suivi ces événements. En l'occurrence, on fête le centenaire de 1916, donc de fait, il y avait ces...
Oui, encore une fois, je fais un parallèle. Comme historien, j'aime bien les concomitances. Alors, si je peux faire des corrélations, c'est encore mieux, mais j'aime bien les concomitances. Or, les événements tragiques de 2015, janvier et novembre, alors, surtout novembre, parce qu'effectivement, le président de la République, chef des armées, dit « nous sommes en guerre », et depuis 2 ans, il est dans une séquence commémorative quasi unique depuis très longtemps. Bon, donc, on commémore presque de manière hebdomadaire, le souvenir des deux guerres mondiales. Et par ailleurs, on nous dit, et probablement c'est vrai, nous sommes en guerre. C'est quoi le lien entre les deux? Comment fait-on le lien entre cet investissement considérable du président de la République actuelle, François Hollande, c'est presque du jamais vu, dans des commémorations à répétition? Encore une fois, peu importe que ce soit bien ou pas, c'est pas mon problème, mais j'observe ce phénomène-là, et l'idée qu'on déclare qu'un pays est en guerre, et ce que je constate, alors là aussi c'est l'historien de la guerre qui parle, que autant on parle de mémoire de la guerre, autant on a visiblement perdu l'expérience de la guerre. Je rappelle juste que la France, comme d'autres pays européens, est un pays qui a été en guerre de 1914 à 1962, quasiment sans discontinuer, hein, entre les deux guerres mondiales et toutes les guerres coloniales, Indochine, Algérie, etc. Bon, depuis 62, heureusement, nous sommes relativement en paix, si on accepte quelques interventions à l'extérieur. L'expérience de la guerre a été perdue d'une certaine manière. Nous sommes démunis, nous avons tous été dans un état de sidération lorsque Paris a été attaqué de cette manière-là. Et le discours des politiques n'est pas du tout un discours qui fait référence à une culture de guerre ou à une expérience de guerre. C'est un discours qui est un discours qui a presque un peu une parole magique. Et c'est là où il y a un problème. Alors à quoi ça sert de commémorer les deux guerres mondiales? À quoi ça sert de commémorer les sacrifices des combattants de Verdun? À quoi ça sert de commémorer les victimes de la Shoah si cette commémoration est impuissante à nous dire quelque chose sur le présent? Voilà.
Et justement, à vos yeux, quel est le rôle politique de cet activisme mémoriel?
J'ai un collègue, Patrick Garcia, historien, qui dit fond, c'est une variable d'ajustement. C'est-à-dire, les politiques mémorielles ne coûtent pas grand-chose. Je suis un petit peu sévère, hein, enfin un petit peu critique. C'est-à-dire, ne coûtent pas grand-chose, au sens que vous les fassiez et que vous ne les fassiez pas, il n'y aura pas des gens qui vont aller casser des vitrines dans la place de la République. Donc voilà, ça veut dire que c'est un supplément d'âme de la politique, c'est un supplément de symbolique, on va dire. On le voit très bien avec François Hollande, qui est un homme qui a une certaine culture historique, qui parle volontiers d'histoire, de mémoire, qui va passer une heure sur France Culture à parler d'histoire. Mais voilà, est-ce que les enjeux aujourd'hui d'un pays comme la France, dans une Europe qui cherche quand même un nouveau souffle, c'est seulement la mémoire, le passé, et une forme de passé un peu muséal, c'est-à-dire un peu enfermé dans une représentation figée. Encore une fois, je ne suis ni pour ni contre la mémoire, je suis historien, mais peut-être que je reviendrai à la question de la tradition, non pas parce que je suis un traditionnaliste, mais parce que la tradition nous parle du demain aussi. Vous voyez, le général de Gaulle, lorsqu'il parlait de la France éternelle, on est d'accord ou pas, mais il nous parlait de la France d'hier, de la France d'aujourd'hui, de la France de demain. Avec la mémoire, on est en permanence dans hier. Et c'est le lien entre ce qui s'est passé hier, ce qui se passe aujourd'hui ou demain, qui manque un peu dans ce type d'approche de la mémoire.
Juste pour finir, on remonte un peu dans le temps, mais vous dites aussi dans votre livre que finalement, la première... un des pas vers ces commémorations, ça a été François Mitterrand avec le bicentenaire de la Révolution française. C'est là où vous diriez qu'il y a eu un basculement comme ça
Non, je pense pas que le bicentenaire ait été un moment de basculement. Au contraire, je pense que c'est... Enfin, peut-être que c'est... Non, je vais le dire autrement. Peut-être que c'est le dernier grand moment d'une mémoire positive.
D'accord.
C'est-à-dire que la France célèbre avec conflits, controverses, d'ailleurs c'est des controverses à mon avis bienvenues sur le sens qu'on pouvait donner à cet événement, à la Révolution, mais elle célèbre quand même ce qui a été son moment fondateur. Elle célèbre l'avènement de ce qui a été, en gros, la politique moderne, les valeurs modernes qui fondent encore nos démocraties, la France et même ailleurs. Bon, après on va être, donc on est en 89, mais 93, 4 ans après... c'est la commémoration du Veldiv. Là, c'est la première commémoration négative. Alors, des commémorations négatives, il en faut quand c'est nécessaire. La France a été complice des crimes de Vichy. Vichy a été complice des crimes de la solution finale pendant la guerre. Donc, il faut le dire, il faut le reconnaître. Mais si on s'arrête à ça, ça pose un problème parce que ça crée un déséquilibre. Et voilà, moi j'ai le sentiment... alors parfois, il y a une réaction. La commémoration du 6 juin, par exemple, a été une commémoration ô combien positive, à tel point qu'on a cru parfois retrouver quelques accents résistantialistes, où c'est la France qui s'était libérée elle-même. Bon, mais pourquoi pas? Je pense qu'il y a un problème surtout d'équilibre, et un problème de réflexion, c'est ce que j'essaie de faire avec cet ouvrage, hein, qui... Bon, c'est le sujet sur lequel je réfléchis depuis longtemps. Je pense qu'on pratique, on agit dans le domaine de la mémoire, que ce soit parfois les politiques ou les associations, comme si ça allait de soi. Voilà. Or, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'important, de fondamental, et qui est pratiqué partout dans le monde. Je pense qu'il faut redonner du sens à ces politiques de mémoire et non pas considérer qu'elles vont d'elles-mêmes, voilà, que ça va de soi.
Je vous remercie beaucoup Henri Rousseau et j'invite donc nos auditeurs à poursuivre cette réflexion avec votre livre « Face au passé, essai sur la mémoire contemporaine » qui vient de paraître chez Belin. Et je signale aussi que vous allez diriger toujours chez Belin une nouvelle collection avec Denis Pechanski qui s'intitulera « Contemporaine », c'est bien ça?
Oui, c'est une nouvelle collection sur l'histoire du XXe et du XXIe siècle, un petit peu dans l'esprit que je viens de développer ce soir, aujourd'hui.
Je vous remercie beaucoup, c'était Mémoire Vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoirevive au pluriel.net.